7h43 sur France Culture. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. On vient d'entendre un certain nombre de sons d'actualité, d'extraits d'interviews et notamment la voix de Tariq Ramadan en disant qu'il ne s'exprimerait pas sur les accusations qui sont portées contre lui. Puis Edwy Plenel évoquant les enquêtes que Mediapart avait réalisées autour du cas de Tariq Ramadan. Que pensez-vous de cette affaire ?
Écoutez, bien évidemment, moi je soutiens toutes les femmes qui prennent la parole. J'avais lu le livre de Hendaye Ari dans lequel elle expliquait avoir été effectivement violée par une personne. Elle ne nommait pas à ce moment-là Tariq Ramadan. Je trouve que le récit est assez glaçant et ceux qui se rajoutent sont extrêmement glaçants. Ils vont dans le sens du discours qui est tenu par Caroline Fourest et d'autres depuis quelques années, d'une forme de duplicité de Tariq Ramadan. Mmh. Maintenant, bien évidemment, en tant que membre du gouvernement, je respecte la présomption d'innocence et j'attends que la justice passe dans cette affaire comme dans les autres.
Au-delà de ce cas particulier, pensez-vous qu'il faille que la parole se libère ? Autrement dit, que dans tous ces cas, où semble-t-il une omerta a régné, eh bien, les femmes parlent plus, les médias relaient, puisque là, en l'occurrence, ce sont les médias qui sont accusés d'avoir fait silence sur une situation qui aurait été connue par elles ?
Oui, enfin, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. À chaque fois qu'il y a une affaire, on nous dit tout le monde savait. Pour Weinstein, on nous a dit ça. Pour Baupin, on nous disait la même chose au demeurant à l'époque. Je pense qu'effectivement, il y a un travail à mener des médias, mais je pense qu'on peut pas non plus blâmer les médias dans leur ensemble pour des viols qui ont été commis. Il y a une justice. Quand quelqu'un a connaissance d'un fait de viol, c'est pas un journaliste qu'il faut appeler, c'est un commissariat de police ou un avocat.
Toujours dans la suite de l'affaire Weinstein, des remous qu'elle a provoqués, de la libération de la parole, Marlène Schiappa, on a appris hier le report de la rétrospective Jean-Claude Brissot à la Cinémathèque de Paris. Votre réaction ?
Moi, je remercie d'abord la Cinémathèque, puisque c'est une organisation totalement indépendante et qui a pris cette décision en toute indépendance, mais suite notamment à la demande que j'avais formulée, ainsi que la ministre de la Culture, qui avait fait part de son émoi, disons, face à cette rétrospective consacrée à une personne qui a été deux fois accusée, là, en justice, il ne s'agit pas d'accusation en l'air, pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. Donc, bien évidemment, je salue cette décision et je remercie la Cinémathèque de nous avoir entendus et de nous avoir comprises.
Alors, comment faire avec ces artistes dont le statut d'artiste n'est pas discuté, mais qui ont eu dans leur vie privée, enfin je vous laisserai d'ailleurs commenter cette notion, des actes délictueux, criminels? Que va-t-on faire de leur œuvre? Est-ce que l'on est capable aujourd'hui d'avoir un avis précis sur ce qu'il conviendrait de faire?
Écoutez, non, moi, j'ai pas d'avis précis. Moi, vous savez, mon rôle, ça n'est pas de dire la morale. Mon rôle, c'est de créer et conduire des politiques publiques efficaces et de faire en sorte que ces politiques publiques de lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes ne soient pas entravées. On m'a posé la question récemment de savoir si j'aimais toujours les anciennes chansons de Noir Désir. Je trouve que c'est une question extrêmement compliquée parce que c'est une question philosophique. Est-ce qu'on peut choisir d'aimer ? Est-ce qu'on peut choisir de désaimer ? Est-ce qu'on peut choisir notre attachement à telle ou telle œuvre d'art ? Je trouve que c'est une question qui est extrêmement compliquée. Ce que j'observe en l'espèce précisément, c'est que le talent ne doit pas être une excuse. Moi, je n'adhère pas au discours de dire un tel a violé 5 femmes, mais il a eu 2 Oscars, donc quand même, il a beaucoup de talent, comme si ça devait nous permettre de relativiser les agressions sexuelles et les crimes. En revanche, évidemment, c'est compliqué d'arriver dans la censure, finalement, dans une forme de censure. Donc effectivement, il y a une ligne de crête qui est assez délicate, pour tout vous dire.
Une ligne de crête et là aussi, au travers de la libération de la parole et de ce vaste débat qui s'est ouvert en France, il y a eu également une notion qui est apparue, la culture du viol, avec une tentative de revisiter un certain nombre d'œuvres, par exemple d'œuvres cinématographiques qu'on a pu entendre, par exemple sur cette antenne, des gens expliquaient que des films présentaient des scènes d'amour qui étaient au départ ouvertes par des femmes qui disaient non. Beaucoup de films, Star Wars par exemple, mais d'autres films. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça, Marlène Schiappa ?
Moi, je suis pas du tout sur la ligne de revisiter les œuvres passées eu égard à des codes, des comportements ou même des lois actuelles. J'ai trouvé ça assez ubuesque qu'on veuille interdire, par exemple, à un moment, Autant on emporte le vent, sous prétexte que c'était un film esclavagiste, anti-yankee, etc. Je pense que c'est une question qui est délicate. La culture du viol, moi j'ai écrit un livre sur ce sujet, un des premiers livres de France, au demeurant, je crois, qui s'appelait Où sont les violeurs, il y a à peu près 2 ans, sur le sujet de la culture du viol. Mais pour moi, la culture du viol, c'est pas culture au sens la culture, les arts, c'est culturel au sens de phénomène culturel, d'habitus au sens sociologique du terme. C'est-à-dire, c'est tout ce qui, dans notre environnement, nous fait baigner dans une atmosphère qui banalise, excuse, relativise les viols, les agressions sexuelles, qui dégrade le langage en parlant par exemple de frotteurs ou de mains aux fesses. Quand on doit parler d'agression sexuelle, c'est cela la culture du viol. Pour moi, il ne s'agit pas de blâmer les œuvres d'art en tant que telles.
Je continue à dérouler les différentes propositions qui sont aujourd'hui sur la table. On a parlé d'écriture inclusive. Chacun voit à peu près ce que c'est, mettre un point avec la possibilité d'avoir les deux genres par écrit. Aujourd'hui, on évoque également la grammaire inclusive. Vous y êtes favorable ?
Alors d'abord, peut-être, l'écriture inclusive, ça n'est pas juste le point maison. Vous savez, l'écriture inclusive, normalement, ça désigne le fait de dire les Françaises et les Français, celles et ceux, de choisir une mot épicène, de mettre un E. Et il y a plusieurs écoles au sein de l'écriture inclusive. Il y a un canal historique, il y a des courants, il y a des favorables
au tiret. Emmanuel Macron dit celles et ceux, par exemple.
Voilà. Alors moi, je suis très favorable à féminiser le langage. Je pense que c'est intéressant de voir de quelle manière on n'invisibilise pas les femmes dans le langage. Je dis aussi celles et ceux, les Françaises et les Français, les policières et les policiers, etc. En revanche, le point médian, très honnêtement, comme ça, c'est pas quelque chose auquel j'adhère. Je pense que c'est compliqué d'abord de l'enseigner à l'école. Pour moi, on enseigne aux enfants, c'est déjà difficile de leur faire comprendre qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ça me semble compliqué de rajouter des points. En revanche, même si je ne suis pas pour l'écriture inclusive ni pour son caractère obligatoire, je ne pense pas non plus. Je pense que considérer l'écriture inclusive comme un symptôme de dégénérescence de la société, c'est un tout petit peu excessif. Je pense qu'on peut avoir le débat sémantique de la place des femmes dans le langage, dans le patrimoine, etc., sans en faire l'alpha et l'oméga du débat de l'égalité entre les femmes et les hommes à notre époque.
Et la grammaire inclusive, où là, il s'agit par exemple de modifier les règles entre le masculin qui ne l'emporterait plus sur le féminin avec différentes variantes possibles.
Oui, c'est un débat aussi qui existe. C'est un débat qui existe de longue date chez les féministes, chez les experts.
Et vous, votre opinion ?
Moi, je pense qu'il y a une grammaire officielle. Moi, je fais les accords, mais je pense que ça ne doit pas empêcher le débat. Si vous voulez, on peut débattre de ça. Après, j'ai vu la pétition des enseignants. Je pense que c'est à cela que vous faites référence, qui disent qu'ils ne vont plus enseigner cela. Moi, là, honnêtement, je trouve que c'est assez problématique. Je pense qu'on ne peut pas décider de son propre chef ce qu'on va enseigner ou pas, quelle qu'en soit la raison. Mais je pense que si le débat doit être porté par des grammairiens et des grammairiennes, il peut l'être, évidemment.
Marlène Schiappa, vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. À la suite de l'affaire Weinstein, qu'est-ce qu'il est possible de faire en matière de loi ? Qu'est-ce que vous allez changer, si vous allez changer quelque chose ?
On va changer des choses. On n'est pas là pour ne rien faire et tout laisser comme tel. En matière de loi, on avait déjà annoncé avant cette affaire avec la garde des Sceaux la construction d'une grande loi citoyenne contre les violences sexistes et sexuelles. Le constat de base, c'est qu'il y a une proportion de viols et d'agressions sexuelles qui sont réellement condamnées, qui sont extrêmement faibles. Et déjà, à la base, avant la condamnation, il y a une part de viols et d'agressions sexuelles qui donnent lieu à des plaintes qui sont aussi extrêmement faibles. Ça veut dire que nous devons améliorer des choses. Donc nous travaillons d'abord sur le combat culturel avec des grandes campagnes de communication, de sensibilisation, sur le modèle de ce qui avait été fait pour la sécurité routière, et ça, nous l'avions annoncé dès mai 2017. Et avec la garde des Sceaux, nous travaillons une grande loi citoyenne contre les violences sexistes et sexuelles. Une loi citoyenne, ça veut dire que chacune et chacun peut participer à l'élaboration de cette loi et venir nous dire, d'après lui, d'après elle, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui doit être amélioré dans cette loi. Donc nous avons déjà auditionné un certain nombre d'expertes et d'experts.
Quels sont les points qui vous paraissent intéressants au travers de cette
consultation ? Alors nous, on a déjà 3 points saillants qui sont, 1, la verbalisation du harcèlement de rue, ce qui permet d'abaisser le seuil de tolérance de la société à ces phénomènes de harcèlement, y compris dans la rue.
Comment définit-on le harcèlement de rue ?
C'est une vraie question. C'est pour ça que nous avons créé un groupe de travail avec le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Il y a 5 députés de tous bords politiques qui sont en train justement de plancher pour savoir comment on définit le harcèlement de rue, qu'on pourrait aussi, au demeurant, appeler outrage sexiste. Il y a une discussion en cours sur ce sujet.
J'ai lu, par exemple, que
Ils sont en train de regarder ce qui est du harcèlement ou ce qui n'en est pas.
J'ai lu, par exemple, que pour vous, siffler une femme dans la rue, ça n'était pas du harcèlement.
C'est mon point de vue personnel, mais effectivement, je pense que tout ne doit pas être considéré comme du harcèlement de rue. Je pense que de la même manière qu'il faut véritablement qualifier les choses pour ce qu'elles sont, une main aux fesses, un frotteur, c'est une agression sexuelle, ça n'est pas quelque chose de, ce n'est pas un jeu, c'est pas quelque chose de fun. De la même manière, je pense qu'il ne faut pas non plus que tout tombe dans le harcèlement. Il me semble qu'un sifflement, une fois, n'en est pas, mais c'est mon avis personnel. On verra ce que les parlementaires nous disent à ce sujet.
La question de la prescription avec l'imprescriptibilité des crimes sexuels, qu'en pensez-vous, Marlène Schiappa ?
On allonge les délais de prescription, notamment pour les crimes sexuels sur mineurs. Ça fait partie des volets de cette grande loi contre les violences sexistes et sexuelles. L'idée, c'est d'allonger. Là, on est à 20 ans. Nous nous basons sur une mission de consensus qui a été coprésidée par Flavie Flamand et par un magistrat qui s'appelle Jacques Calmette, qui recommande de les allonger à 30 ans. Donc, on est en train de voir si on va jusqu'à 30 ans ou pas. En revanche, l'imprescriptibilité, notre position, la ligne du gouvernement, c'est qu'on n'y est pas favorable pour plusieurs raisons. D'abord, pour une question de droit, parce que je pense que ça ne passerait pas la barrière du Conseil constitutionnel. Ensuite, parce qu'en France, il y a une gradation des peines. Seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Si l'on décide que les crimes sexuels sont aussi imprescriptibles, quid des crimes ? Quid des meurtres ? Est-ce qu'ils doivent devenir aussi imprescriptibles ou est-ce qu'on considère que la hiérarchie des sanctions est remise en cause ? Ça me semble assez compliqué du côté du monde de la justice. Et enfin, un certain nombre d'experts, mais ça c'est une position qui est controversée, mais je vous en fais part telle quelle, un certain nombre d'experts nous disent que, de leur point de vue, avoir une date butoir de prescriptibilité, ce serait un déclencheur de mémoire pour les victimes et ça leur permettrait de s'emparer ce sujet peu après ou peu avant le délai d'imprescriptibilité.
Certains juristes disent que le problème du délai de prescription, c'est l'administration de la preuve. 30 oui. ans après, et que peut-on faire à cet égard, Marlène Schiappa ?
C'est un vrai sujet, c'est une vraie question que la question de la preuve, mais je vais vous dire très honnêtement, même 2 ans après, pour un harcèlement sexuel, qu'est-ce que vous avez comme preuve ? Et on le voit bien là sur les affaires, certaines affaires dont il est question. Quand il y a des faisceaux d'indices concordants majeurs et quand il y a une quantité de victimes incroyable, la justice peut passer peut-être moins difficilement. Mais lorsque vous êtes seule, lorsque vous êtes une femme et que vous accusez un homme de harcèlement sexuel, que vous n'avez pas de preuves, que vous n'avez plus les messages éventuels, que vous n'avez pas de témoins, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est compliqué que ce soit 2 ans après ou 25 ans après.
Et l'autre question, c'est l'accompagnement des femmes qui portent plainte. Là aussi, on a eu l'occasion de dire que c'était compliqué de porter plainte, qu'on n'était pas nécessairement bien reçu. Est-ce vrai ? Qu'en pensez-vous ? Comment faire ?
Je pense qu'on a souvent dit que les femmes n'étaient pas assez bien reçues dans les commissariats de police. Et moi-même, dans le passé, j'ai tenu aussi ce discours. Néanmoins, je m'aperçois en regardant les associations, et je m'en suis aperçue comme maire adjointe pendant 4 ans en charge de ces questions, dans les permanences, que ça risque aussi de décourager les femmes parfois de tenir ce discours. Il y a des femmes qui nous disent « je ne vais pas porter plainte parce que je vais être mal reçue ». On se dit « mais pourquoi vous seriez mal reçue ?»« Parce que j'ai entendu qu'on était mal reçue ». Donc je pense que parfois, il arrive que des femmes soient mal reçues, et ça n'est pas tolérable, ça ne doit pas être laisser passer. Il y a une hiérarchie dans la police, donc il faut contacter la hiérarchie, les préfectures, qui de droit pour faire en sorte que les femmes soient bien reçues dans les commissariats. Mais je pense que dans l'immense majorité des cas, les policiers et les policières font leur travail. Il y a 1281 fonctionnaires dans les commissariats de police qui sont mobilisés sur les violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles, qui ont été formés pour cela et qui en sont référents et responsables. C'est une profession de surcroît qui se féminise considérablement de façon exponentielle, les forces de police, et donc qui accueille les femmes. Et il y a des formations qui sont faites par la MIPROF, la mission interministérielle de protection des femmes. Il y a un colloque là de nouveau fin novembre pour reformer de nouveau toute une cohorte de professionnels à cet égard. Donc nous travaillons là-dessus, nous renforçons ces efforts de formation, d'accompagnement, de sensibilisation. Mais on voit, il y a une enquête là de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie, qui nous montre que pour 1 personne sur 2, en cas de violence sexiste ou sexuelle, le réflexe, c'est le commissariat de police. Mmh. 1 personne sur 2, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a quand même un lien de confiance, je pense, entre la population et sa police à cet égard. En revanche, un chiffre qui pour nous est une piste de travail, c'est que seulement, je crois, 12 ou 16% des personnes interrogées disent qu'elles font appel à une association. Or, nous, la totalité de notre budget, il va en soutien à ces associations, la quasi-totalité. Ça veut dire que pour nous, nous avons un effort à faire pour faire connaître davantage ces associations. Par exemple, Droit d'urgence, c'est une association qui anime des PAD, des points d'accès au droit dans Paris, et qui permet aux femmes de les aider à construire leurs plaintes. Parce que c'est vrai qu'arriver dans un commissariat, cas, quand vous avez déjà été victime de violences sexuelles ou de viols, vous arrivez, il y a des gens que vous ne connaissez pas, vous êtes toute seule, l'uniforme, le contexte peut être un peu déstabilisant. Donc c'est important de préparer également sa plainte. Il y a des CIDFF, des centres d'information des droits des femmes et des familles partout en France, que l'État finance très largement, qui peuvent aussi accompagner les femmes dans cette démarche.
Ce débat, il est monté, Marlène Schiappa, à partir d'un hashtag « Balance ton port ». Votre bilan rétrospectif, bilan d'étape sur ce qui s'est déroulé sur les réseaux sociaux?
Écoutez, on a beaucoup dit que la parole se libérait. Effectivement, la parole se libère, mais moi je pense que la parole se libère pas par magie. Si la parole se libère, c'est parce qu'il y a une écoute surtout qui se libère, et parce qu'enfin la société écoute les femmes. Parce que moi je n'ai pas le sentiment que les femmes soient restées silencieuses. On a beaucoup entendu des questions du type « mais pourquoi les femmes, pourquoi nous avaient-elles pas dit avant que c'était si d'une telle ampleur le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles ?» Ça fait des années que les femmes essayent de parler, qu'on les écoute pas beaucoup. Je vous rappelle cette vidéo de Courtney Love en 2015, donc il y a plusieurs années, quand quelqu'un lui dit « quel conseil donneriez-vous à une jeune actrice ?» Elle répond « mon conseil, c'est si Harvey Weinstein vous invite dans sa chambre d'hôtel à une fête, n'y allez pas. » Je pense que c'est quand même assez explicite.
Est-ce que vous observez une augmentation des plaintes? On l'a vu par exemple au Canada, à Montréal. Est-ce que vous observez une augmentation des plaintes depuis l'apparition de ce hashtag, depuis la montée de ce débat, Marlène Schiappa?
On n'a pas encore les chiffres précis qui nous permettraient vraiment de faire une comparaison sur les plaintes sur ces sujets. En revanche, on observe une augmentation des appels au numéro tel que le 3919 et au numéro d'urgence. On observe une augmentation des visites dans les associations et on observe même une augmentation des appels, puisque nous, pendant un moment, là ça s'est un peu calmé, mais pendant plusieurs semaines, on a eu dans le secrétariat d'État des appels de femmes victimes de viols qui ne savaient pas qui appelait, qui ne savaient pas où aller, et qui appelaient du coup au standard, au secrétariat, dans le secrétariat d'État.
Et alors, du coup, est-ce que on est capable de quantifier cela? Est-ce que vous pensez que cela va aboutir effectivement à des procédures judiciaires, puisque vous aviez dit en substance que Twitter ne pouvait pas se substituer à la justice, Marlène Schiappa?
Oui, ça me semble évident, on est dans un état de droit. Je pense que c'est très important que les femmes parlent. On ne peut pas non plus considérer, c'est difficile, mais c'est ça l'état de droit. Ça veut dire qu'à partir du moment où une femme parle, il faut qu'on lui dise qu'on la croit et qu'on est de son côté. Et de la même manière, on ne peut pas non plus considérer que le simple fait d'avoir donné un nom soit déjà une condamnation. Il faut que la justice passe pour tout le monde, et c'est ce qui préserve l'état de droit.
Marlène Schiappa, vous restez avec nous. On va vous faire réagir à l'actualité, puis aux environs de 8h20, vous serez rejointe par Monique Pelletier, qui a été ministre déléguée chargée de la famille et de la condition féminine de 1978 à 1980. On évoquera avec elle les combats qui ont été menés, les combats qui restent à mener pour l'égalité entre les femmes et les hommes.